Mesdames, Messieurs, la partie du séminaire qui commence risque d'être la plus austère et la plus décevante. Avant toute chose, je voudrais remercier l'organisateur, M. John Shade, remercier l'organisateur du projet, M. Thomas Speth, aussi remercier pour son aide constante Bärbel Schnegg, avec qui la communication est très fréquente. Elle est surtout par pic et je dois ensuite digérer toutes les données qu'elle m'envoie parce qu'elle a l'art de répondre de façon extrêmement nourrie et précise à toutes les questions que je peux lui poser. Ma participation à ce projet est très limité en ceci que John Shade m'avait parlé il y a plusieurs années de ce projet en cours, ou plutôt pressenti en l'occurrence, la reprise du travail, de son travail de thèse par Bärbel Schnegg avec prolongement jusqu'à l'époque sévérienne, et John Shade disait que Bärbel Schnegg souhaitait qu'un prosopographe puisse commenter avec elle, pour elle, eh bien, tous les noms qui apparaissent dans ses procès-verbaux. De fait, la contribution dont j'ai la charge est vraiment celle d'un prestataire de service, de même qu'il y a des électriciens, des plombiers ou des chauffagistes. Je ne viens pas réparer la chaudière, mais je viens mettre les mains dans le moteur onomastique et le moteur prosopographique. En ceci, mon travail est, je le répète, extrêmement limité, puisque je ne m'occupe pas a priori des questions d'établissement de texte, puisque Bärbel Schnegg a établi un texte, et un texte qui est porteur très souvent de progrès d'abord dû à la suppression d'erreurs. Supprimer une erreur est un progrès, et d'autre part aussi à des nouvelles lectures, des nouvelles interprétations. Pour avoir vu vraiment en détail ce qu'elle fait, je peux assurer que son travail sera vraiment porteur d'un gros progrès. D'autre part, donc l'établissement du texte n'est pas mon travail. Cependant, par le biais de tous ces noms qu'il faut évidemment étudier, il y a des remises en cause de lecture dues à des prédécesseurs, mais John Shade a à peine mentionné la faute de frappe chez Piggy entre Postuma et Postumia, par exemple, mais ça, c'est tout à fait banal. Il suffit d'ailleurs parfois de se référer à des éditions antérieures hein, pour voir quelle est la lecture juste. Et puis, parfois, il s'agit de proposer donc des noms nouveaux. En effet, il y a des noms qui méritent relecture, qui ne sont pas entièrement bien interprétés. Des lettres, j'en proposerai au moins un cas tout à l'heure à l'Assemblée, et plus particulièrement à Bärbel, car les problèmes se posent de tous les côtés. Alors, cette prosopographie doit tenir compte, j'en parlerai, de plusieurs groupes d'individus, de toute une population sénatoriale et équestre, masculine et féminine, qui apparaît dans ces commentaries, groupes qu'il conviendra de faire fonctionner ensemble. La sédimentation historiographique est énorme, c'est-à-dire que ce texte étant connu depuis la fin du XIXe siècle en bonne partie, et puis avec un gros progrès dans les années 30, il y a une imposante bibliographie prosopographie qui n'est que de mentionner la Real Encyclopédie ou la Prosopographia Imperii Romani déjà dans sa deuxième édition et dont la deuxième édition vient de s'achever, mais aussi des recueils spécifiques. Le recueil de l'Albo Senatorio da Settimio Severo a Carino de Guido Barbieri, qui est un classique qu'il convient toujours de mentionner, la prosopographie des femmes de l'ordre sénatorial de Marie-Thérèse Rapsat-Charlier, 1er et 2e siècle, où elle a inclus les femmes apparaissant dans les procès-verbaux, dans le procès-verbal de 204, estimant à juste titre que ces dames de 204 étaient âgées d'un peu plus de 4 à 5 ans. Donc, elles appartiennent au IIe siècle aussi. Elles étaient déjà des femmes de l'ordre sénatorial du IIe siècle, qui est sa borne chronologique. Évidemment, l'essai de Paul Leunissen sur les consuls d'époque sévérienne, et puis une myriade d'articles, d'études très dispersées. Ce projet s'ajoute de surcroît au projet de prosopographie des femmes de l'ordre sénatorial à partir d'un fichier confié par Marie-Thérèse Rapsat-Charlier, dont le dépouillement s'est arrêté en 1993, et qui est très, très succinct, mais qui a le grand mérite d'exister, même si elle considère que pour les jeux séculaires, c'est déjà publié. Mais nous verrons que la situation sénatoriale en amont comme en aval peut être porteuse de renseignements pour l'année 204. Ce corpus, à travers ce procès-verbal, à ceci de tout à fait stimulant, même s'il est porteur de grands regrets, parce que vous verrez que les bribes de noms dont nous disposons sont parfois misérables. Une personne dont on sait que le nom s'achevait par us ou a pour une femme n'apporte hélas pas énormément, sauf à vouloir faire de la virtuosité très gratuite, mais il faut faire avec. Mais aucun fragment n'est négligeable, évidemment. Mais cela, c'est porteur de regrets, en ceci que, tout de même, cette liste nous donnait, à l'exception de l'impératrice incluse dans les 110 matrones, les noms de 109 matrones suivis de celui de leur mari. Donc, sachant que le Sénat pouvait compter environ 600 membres, nous avions ainsi à peu près entre un sixième et un cinquième, disons un gros sixième, un très gros sixième du Sénat. De surcroît, pour des personnages impliqués dans une cérémonie concernant le plus haut de l'État, donc là aussi des personnages très importants, dirais-je. Je partage de ce point de vue l'opinion de John Shade. Nous ne sommes pas dans les non-entities chères à Ronald Syme, qui pourtant a fait tant pour la prosopographie, mais c'est juste une expression point très heureuse. Donc des personnages extrêmement importants. Si cette liste était, si ces fragments étaient vraiment complets, nous aurions en plus des couples sénatoriaux, pas simplement des noms de femmes clarissimes ou d'hommes clarissimes, et qui pour l'histoire sociale, l'histoire des carrières, l'histoire familiale, l'histoire dynastique aussi, nous en verrons des exemples relatifs à la famille sévérienne, seraient du plus haut intérêt. Donc, une fois l'alarme de regret essuyée, nous devons évidemment nous concentrer sur le peu qui reste et essayer de le faire fructifier. Il a été... Non, je parlerai peut-être de l'édition en cours un peu plus loin. Non, pardon, j'essaie... Il n'y a pas moyen, John, d'agrandir sur l'écran la diapositive qui est toute petite. Ah. Bon, donc je vais parler, dirais-je, de quelques rubriques pour poser les problèmes, mais vous verrez que nous retombons toujours sur les mêmes lamentations, dirais-je, relatives à la difficulté du document, mais ces difficultés sont en elles-mêmes stimulantes et porteuses, je ne dirais pas de défi, un défi il faut être capable de le tenir, mais en tout cas, possibilité de travail et essayer de faire progresser des dossiers. De toute manière, les dossiers progressent d'eux-mêmes, indépendamment de celui qui en est chargé, tout simplement en raison du travail accompli par des prosopographes, des épigraphistes, la moisson de documents encore ces deux dernières années nous permettant d'éclairer la famille de ces matrones a été extrêmement importante. Donc il suffit d'attendre 10 ans pour que des nouveautés sortent, si j'ose dire, d'elles-mêmes. Il faut simplement être vigilant pour les rassembler afin de les citer dûment en les intégrant. La prestation qui m'a été demandée à propos de la prosopographie, et j'espère me faire l'interprète fidèle de la pensée et des vœux de Bärbel Schneeg, qui n'arrête pas d'ailleurs de me rappeler à l'ordre de ce point de vue-là, c'est d'expliquer, essayer d'expliquer, la présence de ces personnes dans les procès-verbaux. Il va sans dire que les rituels sont à l'origine, évidemment, les pratiques religieuses, les rituels, sont à l'origine de la présence des Quindecem Viri. Et il fallait aussi 110 matrones et un certain nombre d'enfants. Partant de là, la question se pose de leur sélection, avec aussi des conditions pour leur entrée, leur sélection dans ces groupes-là. Les questions sont nombreuses et il va falloir essayer de comprendre. Vous comprendrez déjà qu'il y aura plus de questions posées que de réponses apportées, selon l'expression consacrée, mais il peut y avoir des possibilités interprétatives à la suite, évidemment, des travaux de Pigg, où nous en avons vu un exemple avec l'étude de Maria Grazia Granino Cecere ce matin. Alors, les quelques chapitres que l'on peut gloser avant de passer en revue cette population et ensuite de présenter quelques cas qui, je l'espère, pourront être éloquents des pistes de recherche pouvant être creusées. C'est tant est parcouru, plutôt, on ne creuse pas une piste, on la parcourt. Donc j'ai organisé le propos, la présentation générale, liminaire, en quelques rubriques. D'abord, les usages onomastiques, qui sont propres, quoique avec des variations, dans ces commentaires. Traditionnellement, la femme est dénommée par un gentilice, qui est le nens de sa famille, le nens de sa gens, le nomen, et un cognomen, un surnom. Donc Julia Domna, par exemple, pour parler de l'impératrice, ou d'autres femmes, ce sont les règles. Il arrive que des femmes puissent avoir des prénoms avant, qui sont des formes du prénom masculin féminisé. On passe de Gaius à Gaia, de Sextus à Sextia, de Publius à Publia, mais ce n'est pas le cas dans ces commentarii où les formules sont assez sobres. Il arrive aussi que des femmes aient plusieurs éléments onomastiques, c'est-à-dire que leur nomenclature déborde le simple squelette habituel, cadre, canevas habituel du gentilice et du surnom, et puisse avoir par exemple 3 éléments onomastiques. Il y a le cas avéré d'une Julia Taria Stratonicae ou d'une Taria Cornelia Asiana. Et on en est sûr dans la mesure où le nom du mari suit au génitif, donc il faut les 3 éléments onomastiques au féminin pour avoir vraiment le nom de la femme suivi de celui du mari au génitif. J'y reviendrai plus loin. Donc, vous le comprenez, et je passe d'une rubrique à l'autre parce que tout est tellement imbriqué. Je parle d'usage, mais j'en viens déjà au 4e point, qui est celui de la coupure entre les noms. Lorsqu'on a une longue liste de 110 personnes extrêmement fragmentaires avec des débuts ou des fins de noms, il faut arriver d'abord à couper. Et encore, pour les femmes, c'est simple, parce que le nom de chaque matrone est suivi de celui du mari au génitif. Mais pour les fillettes, par exemple, là, il n'y a pas le nom du mari, parce qu'elles ne sont pas mariées, évidemment. Donc, on a une série de 27 nomenclatures féminines, et le prosopographe doit savoir où donner le coup de ciseau entre une nomenclature et la suivante, en sachant que parfois, nous n'avons que 7 lettres de suite, puis une lacune, parfois une lacune de 120 lettres, et puis de nouveau 4 lettres, 3 lettres, 7... Bon. Donc, vous voyez le puzzle qu'il y a. Il faudrait imaginer un annuaire 3 pages d'annuaire téléphonique réduit en confettis. Et on n'a pas tous les confettis. Donc, vous avez à peu près 10% des confettis de 3 pages d'annuaire téléphonique. Bon, déjà, ça ne fait pas très envie. D'autre part, pour ce qui est de l'onomastique masculine, les mêmes remarques s'appliquent entre des nomenclatures comportant le gentilice et le surnom, et puis des nomenclatures plus étendues. Il y a même des cas pour des personnages plus connus où le gentilice est carrément omis, et le cas s'en produit aussi dans des datations consulaires, Barbarus Kivika, par exemple, sous Antonin le Pieux, Lamia Silvanus, également pour un gendre d'Antonin le Pieux. Quand on est des proches parents de l'empereur dans les fastes consulaires, parfois, ou des personnages extrêmement célèbres, le gentilice peut être supprimé, même si on met deux cognomina dans la datation consulaire. Donc, parfois pas le gentilice pour les hommes, mais la plupart du temps il y est. Pour les hommes, également des cas de polyonymie, donc d'éléments de nomastique débordant le simple gentilice, la simple combinaison gentilice plus cognomène. Et pour les hommes, d'une manière à peu près générale, j'ai un cas qui est douteux et qui précisément m'inquiète. Je viens d'avoir une idée à mesure que j'en parle, donc là, il y aura peut-être quelque chose de nouveau en direct tout à l'heure. J'ai peut-être la solution, peut-être pas. Il faudra voir le texte. Quasiment pas de prénom. Quasiment pas de prénom pour les hommes, c'est-à-dire que les prénoms qui sont si habituels pour l'épigraphie du Haut Empire, Publius, Sextus, Caius, Marcus, etc., sont très rarement présents dans ces commentaires. Donc, un homme a, comme une femme, une nomenclature avec gentilice plus surnom, parfois une nomenclature polyonyme. Et aussi pour les hommes, également, dans quelques cas, nous l'avons vu encore ce matin pour les Quindecem viri, et ça vaut presque exclusivement pour eux parmi les sénateurs, des mentions de fonctions qu'ils ont revêtues ou qu'ils vont revêtir, consul designatus par exemple, quaestor augustorum. On a quelques cas de chevaliers dont le nom est suivi pour les époux de matrones équestres, dont le nom est suivi de la fonction de tribun, tribun militaire. Mais on a pour la plupart des époux des dames clarissimes pas de fonction. Donc la question se posera aussi de la hiérarchie de la liste. C'est exactement ce que tu disais ce matin à propos des Quindecem viri. La première dame, si j'ose dire, est connue, et son mari était le magister du collège l'année précédente. Donc, elle est la première femme à apparaître. Reste à savoir si des membres plus âgés du collège avaient encore leur épouse. Peut-être que le membre nonagénaire n'avait plus d'épouse. Là aussi, les questions commencent à surgir pour l'établissement de ces listes. Alors, l'enquête met en valeur d'un groupe à l'autre, puisqu'il y a divers groupes, et mes rubriques de toute façon sont inextricablement redondantes, vous le verrez dans cette page-ci de diapositive, parce que il règne, ce n'est pas une découverte, on le sait aussi pour l'époque républicaine déjà, une forte endogamie au sein de réseaux politiques dans une assemblée de 600 membres à partir de la questure, hein, de 600 membres qui ont revêtu la questure, c'est-à-dire le Sénat romain. Et parmi ces magistrats de rang au moins questorien, il y a des familles qui peuvent donner 2, 3, 4, 5 sénateurs. Donc c'est un compte que d'avoir 600 sénateurs, c'en est un autre que d'avoir 600 individus isolés. Donc on peut peut-être, là aussi, reprendre le slogan des fameuses 200 familles, mais on a des cas de familles qui fournissent jusqu'à 5 sénateurs à certaines périodes, au moins les Septimii de Lepsis Magna, famille de Septime Sévère, dans les années 170-180, fournissent à peu près 5 sénateurs au moins connus. Donc il y en a peut-être 6 ou 7. En réalité, il y en a probablement au moins 6. Donc, vous voyez, une famille représente 1%. Du Sénat, si je puis dire. Donc, c'est évident, des noms qui apparaissent dans une liste, par exemple les Queen de Kemvir, trouvent des homonymes ou des rencontres dans la liste des matrones sénatoriales, voire dans la liste des enfants, des pueri sénatoriaux ou des puellae sénatoriales. Donc il y a des noms qui apparaissent 2, voire 3 fois, des points de contact qu'il faut là aussi essayer d'interpréter, des homonymes. Sont-ils des proches parents? On en vit évidemment au sein d'un cercle si restreint et l'expérience d'autres collèges ou par exemple des pueri qui interviennent dans aussi les rituels des frères Arval le prouvent assez. Oui, ils sont évidemment fortement apparentés entre eux. Alors, fortement apparentés, le prosopographe arrivé à cette constatation dit tout et ne dit rien. C'est-à-dire que oui, ils sont toujours de toute manière tous apparentés et on peut se contenter d'enregistrer quasiment à l'infini la liste de tous ces sénateurs et d'enregistrer leurs liens de parenté. Ensuite, les difficultés apparaissent dès que l'on tente d'interpréter la liste que nous avons, d'autre part, de comprendre les logiques éventuellement politiques derrière ce qui est un réseau en apparence religieux, donc les deux étant étroitement liés, et de comprendre la hiérarchie des listes. Donc, des difficultés qui sont multiples et qui, à cause de la matière elle-même, impliquent que chaque élément onomastique soit l'objet d'une enquête exhaustive. Le document est daté de 204, même s'il y a quelques événements de 203 qui sont relatés en lui. Et il nous donne donc une sorte de portrait de groupe instantané du Sénat ou d'une frange du Sénat en 204. Et le prosopographe, pour travailler de manière rigoureuse, doit évidemment regarder les parallèles de ces noms dans l'ordre sénatorial, l'album sénatorial, si l'on peut dire, du règne de Septime Sévère. Mais pour que l'enquête soit pertinente, et en tenant compte de la misère parfois de notre documentation sénatoriale pour une tranche d'une dizaine d'années, même si l'époque sévérienne n'est pas la pire période, naturellement nos connaissances du Sénat d'époque, enfin John disait tout à l'heure qu'on connaissait mieux le Sénat d'Auguste, ça dépend, chacun voit midi à sa porte, pour certains c'est l'époque antonino-sévérienne qui est mieux connue, c'est variable, mais cela implique aussi non seulement d'avoir en quelque sorte d'une façon acoustique dans l'oreille ou dans l'œil le who's who du tout Sénat des années 200, mais également de mener des recherches aussi bien en amont qu'en aval pour comprendre à quelle famille et éventuellement à quel réseau politique appartiennent des individus qui ne sont connus que par un lambeau de leur onomastique. Je m'explique. Des noms peuvent être très rares ou des noms peuvent être extrêmement banals. Quand il y a un fragment d'onomastique d'un homme ou d'une femme qui comporte l'élément Julius ou Julia, il est quasiment impossible de faire quoi que ce soit. On peut tout au plus dire qu'il y a peut-être un ancêtre ou un rameau de la famille qui a reçu la citoyenneté quelque part entre César et Caligula, et le raisonnement s'arrête là. Il en va de même, l'une de vous deux a mentionné ce matin Ulpius Soter, eh bien Ulpius, et puis avec un nom grec, un ancêtre a reçu la citoyenneté de Trajan, la famille est ensuite entrée dans l'ordre équestre, puis dans le Sénat pour arriver à cette position-là en 204, probablement des ancêtres pour tout ou pour partie provenant d'une province hellénophone, et puis le commentaire, là aussi, s'arrête là, faute de mieux. On le comprend donc, les éléments les plus stimulants sont évidemment les plus rares, ceux pour lesquels il n'y a que un ou deux points de contact. Quand une personne s'appelle Taria, s'appelle Stratonicae, dans l'ordre sénatorial, hein, s'appelle Taria, s'appelle Stratonicae, Laberius, oui, un peu, Polita, là, il y a des éléments rares répandus dans une ou deux familles, Mauricus, ce sont un peu ce que je vais vous montrer, hein. Je ne vais pas vous montrer le pire, je vais vous montrer le plus digeste, dirais-je. Donc là, l'enquête peut aller assez loin. Elle peut aller assez loin à certaines conditions, parce que effectivement, c'est un miracle, mais il y en a, que de trouver un homonyme strict, ou presque, dans l'ordre sénatorial des années 200, autour de 204. Mais parfois, il faut étudier une grosse tranche chronologique en amont, le siècle qui précède l'époque antonine, en aval, disons, la cinquantaine d'années qui suit, et d'étudier dans chaque cas le répertoire onomastique de la famille qui est pressentie pour appartenir, là aussi, pour tout ou pour partie, à l'ascendance du personnage apparaissant dans le protocole. En amont, il peut y avoir des noms très rares, ou assez rares, peu répandus, portés dans l'ordre sénatorial d'époque antonine, et ensuite il faut calculer le lien avec le personnage de 204 pour essayer de dire, à défaut de reconstituer un arbre généalogique qui, à cause de trop de chaînons manquants, serait beaucoup trop acrobatique et verserait dans la virtuosité gratuite, dire dans son ascendance tel personnage à telle famille. Mais c'est déjà un premier résultat. Cela nous montre la fameuse place politique du personnage et un peu nous permet d'éclairer, nom après nom, peut-être la logique de la liste. C'est quand même le but ultime, qui n'est pas nécessairement entièrement tenu, mais chaque élément a une valeur cumulative. Et donc, retrouver ce nom d'autres porteurs de tel élément onomastique dans le Sénat à peu près contemporain ou antérieur permet donc d'établir des sortes de nuages de noms autour d'un personnage et de se dire il est apparenté avec les un tel. Il est apparenté ou de façon directe si les un tel sont beaucoup plus hauts, ou peut-être de façon collatérale si les un tel sont quasiment ses contemporains mais n'ont pas le même gentilice mais le même surnom, par exemple. Donc il faut chercher des points de contact et les mettre en série et les enregistrer. L'étude, ça c'est l'étude en amont. Donc ça implique pour chaque nom des dépouillements et des vérifications, je vous prie de le croire, peu rapides. D'autre part, en aval, il faut voir dans les 50 années, jusque sous Galien, disons, Valérien Galien au milieu du 5e siècle, les éventuels porteurs, là aussi, d'éléments onomastiques, des enfants ou petits-enfants de la génération de 204, des gens qui apparaissent dans les années 220, il y a au moins l'album de Canusium qui est une source tout à fait utile, ou sous Sévère Alexandre, ou encore plus loin, dans le 3e siècle, avec le risque qu'après 204, les alliances soient faites et puis que le chaînon soit un peu plus impur et que des noms puissent venir d'autres rameaux et d'autres cousins. On est dans l'histoire familiale. Donc là, il y a une enquête qui finalement porte sur l'ordre sénatorial des années 100 à 250, sur 150 ans d'histoire du Sénat. Donc on suit des filons, on enregistre des coïncidences onomastiques et on tente de comprendre ce qui se passe. Les difficultés de lecture sont multiples. Vous avez vu ce matin, tout à l'heure, pardon, quelques exemples du travail mené par Bärbel-Schneeg. Et moi-même, j'ai besoin de la consulter à plus d'une reprise parce qu'il y a des restitutions qui nécessairement ne sont pas tout à fait... qui sont discutables peut-être à la lueur de ce que l'ordre sénatorial livre. Et Bärbel-Schneeg, de toute façon, elle-même a déjà proposé des noms, et parfois d'une manière extrêmement stimulante, en résolvant des croix qui sont parfois depuis les premiers éditeurs. Donc là aussi, le travail est étroitement imbriqué. Pour ce qui est de l'édition en cours de préparation, là aussi, il a été décidé, a priori, vu la taille que commençait à prendre ce travail et le besoin, là aussi, d'un commentaire très approfondi, de faire, le premier volume serait évidemment édité par Bärbel-Schneeg, tandis que le deuxième volume de prosopographie serait édité d'une façon conjointe par nous deux. Et il paraît essentiel, vous le verrez, des notices, presque des quasi-notices, que chaque notice comporte le fragment avec le nom de la personne pour que le lecteur puisse se référer à la pierre immédiatement. C'est ainsi d'ailleurs que nous travaillons. Bärbel-Schneeg a découpé dans la pierre, si je puis dire, dans les photos de la pierre, les noms de personnes et qui ont été insérés dans les fiches que nous avons bâties à deux, donc de façon à pouvoir avoir toujours sous les yeux le document lui-même et la lecture. Ce qui mène, mais je l'ai déjà dit par anticipation, à la question de la coupure entre les noms, de la coloration aussi des noms. À force de brasser, ou en tout cas de voir ces noms, de fréquenter, si je puis dire, le Sénat d'époque antonino-sévérienne, on se rend compte que certains noms appartiennent plutôt à tel type de famille qu'à tel autre, ce qui pose aussi parfois la question du statut des personnages, en particulier dans les listes de Pueri ou de Puellae, où il y a des possibilités d'appartenance tantôt à l'ordre sénatorial, tantôt à l'ordre équestre, et la chose également mérite d'être tranchée. L'exploitation onomastique, j'en ai déjà parlé, les groupes étroitement soudés, on l'aura également compris, il y a des cas vraiment d'homonymes, mais d'homonymes purs, même au moins un cas, par exemple, le plus parlant, je le mentionnerai en passant, vous le verrez, d'homonyme pur entre une liste et une autre, un nom qui est au masculin et puis qui est entièrement au féminin dans une autre liste, donc des parents extrêmement proches qui apparaissent dans deux listes différentes. Mais pour autant, il reste à expliquer quel est leur lien de parenté. Si on a Monsieur Dupont dans une liste et Madame Dupont dans l'autre, quels sont leurs rapports exacts ? Donc, vous voyez que même quand on a des noms entiers et homonymes, on n'est pas non plus pour autant dans le domaine de la sûreté ou de la certitude absolue. Enfin, la question de l'établissement des listes et de la hiérarchie, là encore, il y a plusieurs logiques. S'il y a une liste d'hommes, on pourrait penser que c'est un ordre hiérarchique en fonction des charges remplies par ces hommes-là, et si ce sont des femmes, et de l'ancienneté évidemment dans la charge, hein, ou dans le rang consulaire, rang prétorien, rang questorien, et s'il s'agit de listes de femmes, on peut penser qu'elles sont classées en fonction de l'honorabilité du mari. Mais là aussi, comme nous n'avons pas, en particulier pour les femmes, un long, long fragment qui pourrait nous donner, parce que c'est ça le problème aussi pour les matrones sénatoriales, un très long fragment qui pourrait nous donner des noms de mari à côté, et puis le mari connu avec ses charges. Il y a des maris aussi qui sont absolument inconnus, qui ne sont connus que par ce document. Donc ce n'est pas parce qu'on a l'homme qu'on est là aussi tiré d'affaire. Et je tiens à rappeler que l'épigraphie est beaucoup moins généreuse en règle générale à propos des femmes qui apparaissent beaucoup moins dans les inscriptions, parce que les hommes apparaissent évidemment en fonction de leur sacerdoce, de leur charge politique, de bien des documents. Donc la femme apparaît beaucoup moins, ce qui rend tout à fait exceptionnel ce document. On a rarement autant de femmes dans un document épigraphique. Donc, la chose mérite aussi d'être soulignée. Mais pour, vous le verrez, pour les matrones, par exemple, équestres, on a un mari tribun dès le début de la liste, on en a aussi à la fin de la liste, ce qui fait que, là aussi, la recherche d'une hiérarchie, pour l'instant, se dérobe. En plus, dans le cadre de l'utilisation de ces données prosopographiques, de ces listes de noms, de ces coïncidences, parce que l'enquête doit être menée nom par nom, élément onomastique par élément onomastique, avant même de la mener individu par individu. Il y a cette première recherche à faire. Il paraît indispensable d'accompagner les notices d'arbres généalogiques en essayant, par des conventions graphiques, de mettre le plus possible en relief les éléments les plus saillants et les plus intéressants. Alors là, vous allez le voir en couleur, donc c'est tout à fait facile. Je viens de faire une publication auprès de l'Université Paris 4 où on m'a permis de publier d'une façon exceptionnelle des arbres généalogiques en couleur. C'est un luxe rare. Je ne sais pas si cette fois-ci nous pourrons avoir le privilège de la couleur. Dans un monde idéal, ce serait infiniment souhaitable. Sinon, il faudra redoubler d'imagination et de convention. Alors, je commencerai par faire dérouler, pour vous montrer un peu, vous faire entrer donc, dans le laboratoire, trois premières listes, celle avec les formulaires, celle des matrones sénatoriales, celle des matrones équestres et celle des pueri sénatoriaux. Alors là, c'est évident, c'est le document établi par Berbelschneck, dont je suis entièrement tributaire, parce que vous pouvez voir, donc, ces modes de calcul et les lignes que l'on peut avoir, ou plutôt à l'intérieur de ces fameuses lignes qui sont entre, calculées par elles, de 150 à 165 lettres, vous voyez que l'on a, dans le meilleur des cas, même pas une centaine de lettres. On est plutôt dans les 70-80 lettres que vraiment, on a le cœur de certaines lignes et des fragments qui sont plutôt centraux. On n'a pas nécessairement toujours les bords. On l'a dans certains cas, mais pas toujours. Donc, des questions. Voilà à présent les matrones équestres avec la césure qui doit être visible quelque part par là, voilà, à la première ligne, équestresse, avec des noms de mari que nous détaillerons ensuite. Mais vous voyez vraiment ces lambeaux que l'on a et ce à quoi on est confronté. Enfin, la liste des 27 pueri sénatoriaux, qui là sont des listes au masculin, alors avec quelques possibilités de fautes de la part du lapicide, umblius, il y a une élision, une syncope plutôt du i, qui est umbilius, c'est le nom umbilius, donc là il y a eu une syncope. Il faut également tenir compte de ces ratés graphiques. Alors, pour que vous compreniez mieux, vous voyez mieux cette liste, J'ai opté pour les conventions qui suivent. Je me suis agacé moi-même parce que j'avais commencé à mettre les matrones en rose et les maris en bleu, puis j'ai décidé de rompre avec ces conventions trop conventionnelles. Donc les matrones sont en bleu et les maris sont en rouge orangé. Et la liste s'établit ainsi. Comme il n'est pas rare dans l'épigraphie sur Pierre, ça peut être autre chose ailleurs, vous avez le nom de l'épouse au nominatif, et puis suivi au génitif du gentilis et du surnom du mari, presque toujours sous cette forme-là, avec le terme « uxor » sous-entendu, et c'est tout à fait fréquent. Il est même encore plus fréquent dans l'épigraphie lapidaire de n'avoir parfois que le... Enfin, pas plus que parfois, uniquement le cognomen du mari, sans avoir le gentilis. Une telle, deux un tel. C'est ainsi que le latin présente les choses. Alors, quand on fait défiler la liste elle-même, c'est-à-dire que là, cette fois, c'est le formulaire tel que Bärbel Schneeg l'a établi, mais en remettant sous forme colorée la mise en page, vous avez une idée de ces lacunes et de ces interruptions quasi permanentes de noms, c'est-à-dire qu'il est assez rare d'avoir le nom de l'épouse complet et le nom du mari complet. Il manque presque toujours quelque chose. On a le gentilice de l'un et un cognomen de l'autre, ou l'inverse, ou parfois la formule onomastique entière de l'un et manque le nom de l'autre, ce qui fait que l'épouse d'Atilius Severus est une anonyme. L'épouse de Caecilius Aristo est une anonyme. Et là, même si on le connaît, l'époux de Flavia Polita n'est connu que sous le nom Manilius, mais à cause aussi, c'est Manilius, à cause aussi des formulaires onomastiques, on aurait aussi pu penser, si on n'avait pas connu le mari, à Maniliana, par exemple, qui aurait été un troisième élément onomastique de cette femme sous forme agnominale. De même, ici, pour cette Statilia Maxima PU, je serais plutôt enclin à croire qu'il s'agirait du nom du mari qui apparaît là, mais on pourrait songer aussi à un élément onomastique de la femme, un troisième élément, Publiana, par exemple. Donc, les choses ne sont pas assurées et il faut bien voir un peu comment ces listes peuvent être établies. Il y a des cas aussi étonnants. Par exemple, le prénom de ce mari qui serait entièrement attesté, Tibérie, on ne l'a pas. C'est le seul cas de prénom, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, dans cette liste. Je dis si ma mémoire est bonne. Il va sans dire que dans la discussion, je n'ai pas toujours en tête au même moment tous ces individus, les épouses, les maris. Je ne suis pas toujours entièrement au point, loin de là, pour des identifications, pour la bibliographie, etc. Donc, il est toujours possible, évidemment, de corriger ce que je dis et de corriger des lacunes. Donc, c'est en fait l'intervalle manquant entre le nom d'une épouse et celui de son mari qui permet de reconstituer des liens de femme à mari. Mais là aussi, il y a des calculs à faire. Pour celle-ci, j'ai quelques idées parce que j'ai été très conventionnel et j'ai suivi les prédécesseurs. Mon directeur de thèse, Jean-Pierre Calu, disait que il faut de toute façon toujours contrôler ce que les prédécesseurs ont dit, c'est de bonnes méthodes, et que dans un deuxième temps, on peut alors les suivre. Mais les suivre uniquement parce que leur autorité est leur autorité, même les meilleurs peuvent avoir des points de vue discutables, il faut vraiment absolument tout contrôler. Donc là, il y a peut-être une possibilité, même si c'est un cas dont je vous parlerai tout à l'heure, que les choses soient allées diversement. Donc vous voyez, il y a des des points entiers extrêmement lacunaires. Et d'une lacune, ici il y a une lacune de 100 lettres, là il y a une lacune de 125 lettres, suivie d'une autre lacune de 12 puis 125 lettres. Donc vous avez une idée des quelques lambeaux que l'on a, trois syllabes, quatre, huit dans le meilleur des cas, mais jamais beaucoup plus. Et Bärbel-Schneck a donc calculé qu'il y avait à peu près 6 noms par ligne. Sinon d'épouses suivies de leur mari, donc en tout à peu près 12 noms dans ces cas-là. Avec d'autres cas difficiles à interpréter, voyez le nom de cette épouse, généralement interprétée comme une épouse, Nice, puis le nom de son mari, non pardon, ça c'est le nom d'un homme, Nice, puis le nom de la femme suivante. Ou alors, on peut aussi dire que Nice est un nom au féminin et que ici c'est le génitif du nom du mari. Parce qu'il y a des noms, des cognomina féminins qui finissent par Is, hellénisant, hein, mais on a une Platonis quelque part dans la liste, donc ça peut être une autre Platonis. Donc il y a aussi des difficultés d'interprétation si nous n'avons pas les éléments de comparaison. De même, là, c'est traditionnellement compris après le nom de Festus au génitif, le nom d'une postumia qui apparaîtrait, mais ça peut être aussi le nom du mari qui serait un Festus postumianus, le cas se rencontre, donc là aussi des difficultés interprétatives. Donc vous voyez des listes de lacunes où émergent de loin en loin l'îlot d'un nom conservé, celle-ci s'appelle A quelque chose, ça ne nous renseigne pas davantage, et des passages qui sont proprement désespérants. Là, on a AK, dont on ne sait même pas si c'est un monsieur AK ou une madame AK, donc il n'y a pas grand-chose à en tirer. D'autres endroits sont un peu plus stimulants, comme celui-ci. Et là, vous voyez, par exemple, on a le joli cas dont je parle toujours parce que c'est un des rares points sur lesquels appuyer ses pieds, de Julia Taria Stratonicae, épouse d'un Laberius. Et là, on a vraiment trois noms au féminin, plus sans doute le nom du mari au génitif. D'autres cas, ici, ce n'est pas trop mal. Là, une lecture Welia, puis le nom du mari au génitif, Caeseni Servili. Bon, il faudra voir ce que c'est. D'autres cas, là aussi, avec une lecture fortement améliorée par Bärbel-Schneck et qu'un autre cas permet, là aussi, de confirmer, avec le nom du mari, plutôt un Faustinianus qu'un Faustianus, nous y reviendrons. Et d'autres cas, là, on a le nom de l'épouse et le nom du mari. Voilà la fameuse Platonis. Alors, pour les matrones équestres, je ne vais pas, puisque je devais parler surtout des matrones sénatoriales, je vais à peine le mentionner, mais la liste, c'est une nièce évidemment de Julia Domna qui ouvre le cortège, et puis d'autres dames avec le nom du mari au génitif. Pour les femmes de chevaliers, la chose est mieux conservée. Mais on a quasiment, dès le début, par exemple, une femme de tribun qui est là, et puis d'autres tribuns dont l'épouse apparaît, puis des primipiles. Là, il y a peut-être un ordre hiérarchique qui existe, mais vous voyez, ensuite, après, les tribuns sont là, les primipiles, puis de nouveau des tribuns. Donc, les choses ne se laissent pas deviner non plus entièrement. Et pour les Pueri, voilà le formulaire et voilà la liste que l'on peut établir, avec la difficulté aussi de couper ces noms là où ils doivent l'être, avec des propositions. Ici, le Latronianus paraît s'imposer, puisqu'on a déjà Flavius Julius, un cognomen ne serait pas malvenu. Des intégrations qui ont été proposées en leur temps et qui toutes doivent être l'objet au moins de contrôle, je ne dis pas d'une remise en question, mais de contrôle, avec ça et là des grosses difficultés. Ici, un nom qui s'achève par R, puis Maximus, et puis Us ici. Il va falloir un peu voir comment, là aussi, redécouper un peu les noms à partir du calcul des lacunes. Et la liste s'achève avec une difficulté. Ici, ou bien le dernier est chevalier romain, mais alors que fait-il dans la liste des pueri sénatoriaux, ou bien il y a une mention de chevalier à venir, mais la chose n'est absolument pas claire. Est-ce un jeune garçon qui est chevalier qui va recevoir le laticlave, mais on a tenu à le mettre dans cette liste? Est-ce un passe-droit pour lui? Les choses sont vraiment très compliquées et méritent de faire l'objet d'une enquête, là aussi, approfondie. Alors, la liste, une liste qui est peu lacunaire, enfin, elle est lacunaire aussi, il ne faut pas rêver, mais qui pose un certain nombre de difficultés, c'est la liste des puellae, dans la mesure où j'ai du mal, et il me faudra là aussi poursuivre le travail avec Bärbel Schneck, je ne donne que quelques éléments aujourd'hui, mais j'ai du mal à voir s'il y a, comme on l'a beaucoup dit, une différence entre des puellae sénatoriales et des puellae équestres. Il est possible qu'il y en ait des équestres, mais je ne sais pas où passe la limite. Alors, voilà cette liste de jeunes filles. Donc, vous devinez évidemment que la prestation sur les fragments prosopographiques ne concerne en tout qu'à peu près une vingtaine de lignes, finalement, même si ce sont des lignes dans tout le document, même si ce sont des lignes qui comportent des dizaines et des dizaines de noms. Et puis, il faut encore que ces noms soient exploitables. Alors, la difficulté est que, ordinairement, la séparation entre les puellae qui apparaissent ici en toutes lettres, hein, le protocole dit puellae, et puis avec Manilia Lucana, qui est la première mentionnée, d'une manière qui n'est pas hasardeuse, la première matrone qui est mentionnée est la femme d'un Manilius, la première puella est une Manilia, donc y a-t-il là aussi des coïncidences? J'ai plutôt tendance à dire que c'est concerté. Donc, des puellae, il n'y a pas marqué qu'elles sont sénatoriales, alors qu'ailleurs, c'est précisé. Le rang des personnages peut être précisé. Et traditionnellement, on estime qu'elles sont, mais pas toujours, ça varie selon les auteurs, on estime qu'elles sont sénatoriales jusqu'ici, et puis équestres ensuite. Pour ma part, je trouve que certaines rendent un nom extrêmement sénatorial. Il y a des choses à dire pour Flavia Romana, il y a des choses à dire pour Ia, pas nécessairement Pia Casta, pour le Inik que Bärbel réinterprète d'une manière très intéressante. La Babouria également rend un son très sénatorial. Alors, là aussi, comme nous n'avons pas toujours les noms entièrement conservés de ces fillettes, la question qui se pose est évidemment celle de familles qui ont des rameaux très différents. Certaines familles peuvent avoir le même gentilice et n'avoir aucun rapport entre elles. L'une appartient au Sénat, l'autre appartient à l'ordre équestre. Voire pour des familles récemment sénatoriales, il y a un rameau qui peut être resté équestre et un rameau qui a connu une promotion sénatoriale. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Je n'ai pas toujours les moyens de trancher, donc le mieux là aussi est de se livrer à des enquêtes de parallèle. Mais il y a des noms qui malheureusement ne sont pas très exploitables. Un nom comme Aemilia Junia, Maxima Juniana, je n'en fais pas, il n'est pas possible d'en faire grand-chose, sauf s'il existe des parallèles très nets de personnes vraiment strictement homonymes dans l'un des deux ordres, sénatorial ou équestre. Donc, voilà cette liste également des puellae avec la difficulté de savoir où il faut établir le coup de ciseaux. J'en arrive à présent à la possibilité d'étude de cas. À ce point-ci, John, est-ce qu'une pause est bienvenue maintenant ? Moi, ça m'est égal. Donc, parce qu'après, c'est rude. Donc, jusque-là, c'était le facile. Donc, nous décidons de combien de temps de pause ?
Un quart d'heure, 20 minutes.
D'accord.